bien, pour cette émission de Radio FM Plus 91 MHz à Montpellier, nous avons le plaisir d'inviter Monsieur Pierre Chevalet. Monsieur Pierre Chevalet, bonjour.
Bonjour.
Qui est donc s'occupe d'une association qui s'appelle ICO. Alors tous nos auditeurs ne la connaissent pas. ICO, Institut pour la coopération avec l'Europe orientale. Et vous en avez été le secrétaire général. Vous en êtes aujourd'hui le trésorier adjoint, mais vous n'arrêtez pas de militer au travers de cette association, même en tant que secrétaire volontaire aujourd'hui.
Eh oui, je fais fonction de secrétaire administratif parce que une association a besoin plus que tout d'une administration et d'une gestion.
Alors, cette association qui existe depuis un certain nombre d'années, elle sort d'où ?
Alors, l'association est très liée à la politique, à la géopolitique et aux événements, notamment la chute du mur de Berlin. Donc, il faut remettre la situation. Le 9 novembre 1989, chute du mur de Berlin, c'était un jeudi. Et le vendredi 15 décembre 1989, 12 personnes qui... puisqu'on est sur une radio protestante, 12 personnes qui devaient penser à la parabole des talents, se sont réunies pour créer une association ayant pour but de favoriser et de se mettre au service de tous les gens qui voulaient aller à l'Est. Parce que à cette période, déjà en décembre 89, il y avait un afflux d'aventuriers qui se précipitaient dans les pays de l'Est et qui essayaient, on le voyait nous, puisqu'on avait de très bonnes relations avec la Pologne en particulier, on voyait la rapacité des gens qui allaient là-bas et surtout on voyait l'inconscience de tous les Européens de l'Ouest qui découvraient un monde qu'ils avaient complètement négligé pendant de nombreuses années.
Vous avez dit rapacité.
Oui, la rapacité, parce que de toute façon, ce qu'on vit actuellement au niveau de la guerre en Ukraine est un petit de cette rapacité. C'est-à-dire que...
Alors, on va en parler un petit peu plus tard.
On en parlera plus tard, mais de toute façon, c'est-à-dire que... on peut dire en 2024 L'intuition des fondateurs d'ICO qui était que si on faisait rien ou si on laissait les gens faire n'importe quoi, ça finirait à la catastrophe. On a attendu jusqu'en 2022, mais on a vu qu'en 2022, notre pronostic était malheureusement réel, puisque ce qui se passe actuellement, c'est une accumulation. Alors il y a des réussites extraordinaires, notamment la Pologne.
Oui, ben ça, on va en parler effectivement de la Pologne, mais donc vous étiez proche effectivement de cette ouverture qu'avait fait Gorbatchev à l'époque.
Alors nous, on n'a pas attendu Gorbatchev pour les gens qui sont à l'initiative d'ICO. C'est des gens qui se sont regroupés parce qu'ils savaient qu'ils étaient les rares personnes à Montpellier à avoir des liens avec l'Europe centrale et orientale, et des liens très solides, parce que c'est ça qui ressort de la création d'ICO, c'est qu'on a fait la démonstration en 34 ans d'existence qu'une petite équipe de gens déterminés, qui connaissent un problème, qui mettent toute leur bonne volonté ensemble, ça peut faire des choses extraordinaires.
Mais alors, c'était des gens qui étaient issus de quel milieu scientifique ?
Alors, le noyau dur au démarrage, puisque c'était effectivement des scientifiques, parce que en 1980, enfin, le laboratoire dans lequel étaient les fondateurs, parce que une personne très importante dans cette histoire, c'est le professeur Jean Castel, qui était biologiste des hôpitaux et en même temps professeur de chimie thérapeutique à la fac de pharmacie, et qui était devenu responsable des relations internationales de l'université Montpellier. Il avait appuyé tout un tas de programmes de coopération dans tout un tas de pays dans le monde, et notamment les programmes de coopération que j'avais eu l'honneur et la chance de pouvoir commencer à Cracovie en 1986. Et donc, c'est ces programmes de coopération qui ont permis de créer les réseaux, les, les premières fondations des programmes de coopération.
En particulier, donc, vous êtes à l'origine de travaux de coopération avec la Pologne sur des questions de vignes.
Ah, ça, c'est après. Alors, après, c'est au démarrage.
Enfin, oui. Aujourd'hui, ça a été créé, quoi.
Ah oui, oui, oui. Non, de toute façon, là, très immodestement, on peut dire que l'initiation à la culture du vin en Pologne, c'est 100% ICO, puisque dès 1992, 13, 14, nous avons créé avec l'Université de Cracovie les enseignements d'œnologie en Pologne, et nous avons fait de grandes réunions d'initiation à la culture du vin avec la coopération de l'INRA Montpellier et avec le professeur Carbonneau en particulier.
Oui. Et donc vous n'avez pas travaillé que sur le vin. Vous l'avez quand même goûté.
Non, mais justement, ce qui a la spécificité d'ICO, c'est que les adhérents d'ICO sont tous des spécialistes professionnels dans un domaine, mais ils ne restent pas enfermés dans leur spécialité, ils s'ouvrent aux autres. Et mon cas, moi je ne suis pas œnologue du tout, mais il se trouve que la fac de pharmacie, au premier étage, il y a le laboratoire d'œnologie qui a été le premier laboratoire d'œnologie en France créé par le professeur Suisse Pugas. Et donc, quand on a vu que les Polonais se tournaient vers le vin, mais un vin souvent imbuvable, on a eu l'idée de créer un lien entre le laboratoire d'œnologie de Montpellier et la fac de médecine de Cracovie, excusez du peu. Et c'est là qu'on a créé la première académie du vin en Pologne, en 1991.
Mais parmi les 12 fondateurs, oui, que vous nous indiquez, ce sont essentiellement des scientifiques, alors, non ?
Non. Non. Le noyau, oui. Enfin, sur les 12, il y en a 6 qui étaient... sciences physiques, sciences dures, il y en avait 6. Et il y en avait 6 autres qui étaient intéressés par l'ouverture. Mais de toute façon, il ne faut pas rester bloqué sur ces 12 fondateurs, parce que la chance d'ICO, c'est que... Bien sûr, il y a 12 personnes qui ont créé, qui se sont réunies pour créer cette association de déposer les statuts, mais ce qui a fait la richesse d'ICO, c'est que très vite, ICO a été rejoint par des gens de grandes compétences dans d'autres domaines. Je donnerai pour exemple Pierre Becquet, qui était notaire, ce qui n'a rien à voir avec la science, qui a apporté tout son réseau, etc. D'autres personnes comme à côté des rapaces dont je vous ai parlé, on a pu, nous à ICO, accueillir des gens de grande générosité qui ont mis tout le savoir-faire et leur générosité au service de cette cause.
Mais c'est aussi le propre, effectivement, des scientifiques d'être ouverts, je veux dire.
Ah ben, généralement, les bons scientifiques sont ouverts, et puis il y a des scientifiques qui sont ouverts aux prébendes, que leur offrent un certain nombre de gens, qui leur demandent des travaux sur commande. Mais ça, on le sait depuis l'industrie du tabac.
Oui.
Voilà.
On propose à nos auditeurs de ne pas trop fumer non plus.
Voilà. Alors donc, je vais donner l'adresse du site web de l'ICO.
Oui.
Et le site web d'ICO est facile à retenir, c'est association-iceo.fr.
On peut pas faire ICO, plus ça. Institut pour la coopération avec l'Europe orientale.
ICO.fr. Et là, vous aurez... plus de 500 articles qui racontent toute notre histoire. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails.
Oui, avant d'aller dans les détails, peut-être que vous allez nous offrir un petit premier intermède musical.
Déjà, oui, si vous voulez. Donc, ça a commencé par la Pologne, et donc nous vous proposons la troisième de Chopin. Thank you.
Eh bien, toujours sur Radio FM Plus 91 MHz à Montpellier, en compagnie de monsieur Pierre Chevalet, donc responsable de l'ICEO, de l'Institut pour la coopération avec l'Europe orientale, qui nous a présenté déjà dans un premier temps d'où venait ICEO, d'où il était, etc., et qui veut peut-être compléter par quelques petites choses.
Oui, ce que je veux ajouter, c'est que l'association a fait énormément de travail, mais tous ceux qui ont fait l'effort de participer à ce travail énorme ont pu vérifier que lorsqu'on offre, en coopération internationale, décentralisée, parce que c'est ça qui a été essentiel chez ICEO, c'est une coopération décentralisée, c'est-à-dire qu'un petit groupe de gens déterminés, à partir du moment où ils offrent ce qu'ils savent faire et qu'ils le mettent au pot, non seulement ils ne s'appauvrissent pas en travaillant dur, mais ils s'enrichissent. Et ça, c'est extraordinaire, parce que le réseau que ICEO a constitué, alors ICEO, c'est bien sûr Europe centrale, mais comme ça s'appuyait sur le laboratoire de chimie thérapeutique qui faisait beaucoup de coopération internationale, ICEO a pu aussi compter, et ce qui est fondamental, sur une coopération avec les Marocains, avec le Mali, avec la Turquie, avec le Liban, et après avec la Roumanie, la Bulgarie.
Association internationale.
Non, mais, enfin. Mais c'est toute la méthode ICEO, c'est-à-dire que nous, on, par exemple, actuellement, on parle du Mali, et les liens que le Mali a avec la Russie. Mais ICEO est particulièrement bien placé pour pouvoir vérifier ce qu'il y a. Ça fait que le professeur... Nous avons eu la chance... Alors ICEO, ça a été un outil extraordinaire parce que s'appuyant sur la coopération internationale universitaire, s'appuyant sur des programmes de coopération financés par le ministère des Affaires étrangères, et en s'appuyant sur son travail propre, ICEO a pu favoriser l'émergence de certain nombre de personnalités dans leur pays. Et la philosophie développée par le professeur Castel était toujours la même. La coopération, c'est pas de débaucher les cerveaux pour les faire venir en France, c'est d'aider les cerveaux des pays à venir se former en France s'ils le souhaitent, pour qu'ils retournent chez eux. Et la grande réussite du professeur Castel, à la veille de sa mort, il cessait de répéter: mon honneur, c'est d'avoir renvoyé chez eux 95% des étrangers qui sont venus en France pour se mettre au service du pays, de leur pays.
C'est une vision, effectivement, tout à fait particulière. Mais qui mérite d'être développée. Vous m'avez dit, vous, tout à l'heure, quand on a commencé cette rencontre, que vous avez travaillé sur l'Ukraine. Alors, l'Ukraine est un problème aujourd'hui, et donc, pouvez-vous nous parler un petit peu des actions menées ?
ICEO est particulièrement bien placé pour parler d'Ukraine, parce que ICEO est né de l'amitié entre le professeur Castel et le docteur Zygmunt Riznerski, et dont la femme et lui étaient nés en Ukraine, à Lviv. Enfin, à l'époque, c'était en Pologne, mais après, c'est devenu Lviv en Ukraine. Et donc, depuis 1972, nous avons des informations qui nous ont... Parce que les Français, et nous les premiers au démarrage, on connaissait très peu l'histoire de la Pologne. Et c'est là que je peux sortir cette plaisanterie du professeur Porowski, qui est notre ami à Varsovie. Porowski, à chaque fois que je lui faisais pour visiter son laboratoire, je venais avec un Français nouveau, il posait toujours aux Français la même question: qu'est-ce que vous connaissez de l'histoire de la Pologne au 19e siècle? Alors, les Français disaient modestement: oh, rien. Alors, ils disaient: mais vous savez tout, puisque la Pologne n'existait pas au 19e siècle. Et ça, j'avoue que je n'ai pris conscience de ça, et le professeur Castel n'a pris conscience, et les adhérents d'ICEO n'ont pris conscience de ça, qu'à travers nos relations avec nos amis de Cracovie. C'est-à-dire que ce lien tout à fait particulier entre la Pologne, la Russie et l'Ukraine, il faut l'avoir perçu avec les gens du pays pour comprendre la difficulté de cet exercice. Il faut se rappeler que Varsovie était russe jusqu'en 1918, que Cracovie était autrichien jusqu'en 1918, que Poznan était allemand jusqu'en 1918. Donc, ceux qui n'ont pas perçu ça ne comprennent pas à quel point ce drame ukrainien est un drame de l'histoire.
Et c'est quelque chose, en fait, qui est très mal connu, mais en fait, on réagit comme si, entre les pays européens tels qu'ils sont constitués aujourd'hui, je veux dire, les pays de l'Union européenne, il n'y avait jamais eu de changement. Mais on oublie le changement de l'Irlande, on oublie effectivement tout ce qui s'est passé entre la France et la Belgique, et entre les pays
l'Alsace-Lorraine,
l'Alsace-Lorraine et tout ça, je veux dire. Et en fait, on fait comme si aujourd'hui, nous, on était dans un bloc, et comme si les autres avaient été pareils. Alors on se dit, ouais, bon, ça a dû peut-être un peu bouger en Europe centrale, etc.
Votre réflexion est tout à fait pertinente, parce que la devise d'ICO, qui est essentielle à mon avis, c'est apprendre à se connaître pour savoir se comprendre. Alors, lorsqu'on avait donné cette devise derrière le dos de Jean-Pierre Chevènement, quand il nous a fait l'honneur de venir à la fac de droit de Montpellier, il avait dit, mais pourquoi savoir, il faudrait mieux être pouvoir. Et en discutant, je lui ai dit, non, il faut savoir se comprendre, parce que pouvoir se comprendre, ça, mais c'est un don de s'ouvrir à l'autre. Et pas plus tard qu'hier soir, sur une chaîne de télévision, on entendait quelqu'un qui disait qu'il fallait apprendre à se mettre à la place de l'autre pour pouvoir, en particulier dans des négociations de paix, si vous ne vous mettez pas à la place de la partie adverse, vous n'avez aucune chance d'aboutir. Parce que, par définition, vous avez vos exigences. Si vous ne savez pas ce que l'autre est prêt à céder ou pas... Donc si vous ne vous mettez pas à la place, vous n'avancerez jamais.
Quoi. Et ça, c'est la difficulté de l'Ukraine aujourd'hui, où on ne sait pas du tout, effectivement, les Américains, ce que font les Russes, quelle va être la position de l'Europe au milieu de tout ça. Excusez-moi, c'est mon vieux...
L'Ukraine est un problème dramatique, parce que la Russie a envahi l'Ukraine, ça c'est un fait objectif. Donc, ils sont coupables de ce crime. Mais, contrairement à ce qu'on raconte toute la journée... C'est une guerre qui n'est pas... parce que les Américains n'ont pas arrêté de répéter que c'est une unprovoked war, une guerre non provoquée. Et il y a des centaines d'Américains, Jeffrey Sachs en particulier, qui expliquent bien que non, les Russes ont attaqué, mais on a tout fait pour qu'ils attaquent. Puisque c'est le problème de l'OTAN qui est lié à les engagements verbaux qui avaient été pris à Gorbatchev.
Exactement.
Et alors, il faut quand même revoir le film. Imaginez-vous à la place de la Russie, qui appartenait à l'Union soviétique, un empire énorme, qui se retrouve amputé de toutes ses parties, et qui fait ça sans bain de sang. Il faudrait quand même leur dire merci à minimum à M. Gorbatchev.
Tout à fait.
Pas de bain de sang.
Tout à fait, mais effectivement...
Et l'OTAN, le lendemain, ils rentrent. Et donc, par définition, ce que les Russes, que les Américains ne pouvaient pas supporter à Cuba, c'est facile de comprendre que les Russes...
Le supportent pas.
Surtout que les Russes ont un défaut, c'est qu'ils savent lire. Et dans la littérature occidentale, on a vu fleurir... des théories, comment on allait pouvoir découper la Russie à la tronçonneuse. Et alors, imaginez que, quand on voit le drame que les Français ont vécu pour la fin de leur empire, on peut imaginer que les Russes sont des Français comme les autres, et qu'ils ont mal vécu qu'on veuille les découper à la tronçonneuse.
Et il ne faut pas oublier qu'effectivement, l'OTAN, la France en a fait partie au départ, mais avec De Gaulle, on s'en est sortis. Et on est revenu après dedans. Alors ça, tous les autres pays ont fait... Et aujourd'hui, c'est l'envahissement par l'OTAN. Soi-disant, les Américains l'ont voir. Mais on aura l'occasion d'en reparler plus à fond. Et en attendant, vous nous proposez un deuxième petit intermède musical.
Alors là, ce que je vous propose, c'est un morceau du chanteur iconique roumain qui s'appelle Tudor Gorghe. Et son morceau qui est phare, qui est Primavera.
Merci Pierre Chevalet. Thank you.
Già va vine primavera, atâta iarnă e în noi, că martie se poate duce cu toți cocorii înapoi. În noi loc numai de iarnă vom îngheța sub ultim ger, orbecăind pe copți de gheață ca un stingher spre un stingher. La la la
Eh bien, toujours sur Radio FM Plus 91 MHz à Montpellier, en compagnie de Monsieur Pierre Chevalet, qui nous a présenté dans un premier temps ICO, ce qu'il était, ses origines, ce qu'il faisait, et ce qu'il continue à faire d'ailleurs aujourd'hui, qui nous a parlé de questions de l'Ukraine, sur, nous disant un peu, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui sur l'Ukraine. Mais il y a un autre sujet sur qu'il avait commencé à aborder un petit peu au départ, en disant un mot, et qui aujourd'hui est tout de même un problème, c'est Israël.
Alors, comme je l'ai expliqué au début, ICO, qui actuellement fait beaucoup de travaux au niveau d'études géopolitiques, a la chance, grâce à l'expérience et aux connaissances de ses adhérents, de pouvoir porter un jugement sur ce qui se passe actuellement en Ukraine, et essayer d'inviter les gens à la sagesse, parce que...
À réfléchir.
La Finlande a vécu 80 ans de paix absolue à côté de l'Union soviétique, donc être finlandisé, c'est pas être prostitué, c'est vivre en paix. Donc c'est peut-être une notion qu'il faudrait pas oublier. Les Autrichiens auraient été neutralisés, et ils sont toujours vivants. Donc c'est des notions, mais je pense que... Si je suis invité de nouveau par cette radio aimable, on pourrait pratiquement faire une seule émission sur l'Ukraine.
On pourra revoir tout ça et puis
parce que ça mérite un long développement, et surtout il faut sortir des caricatures et surtout essayer de trouver une solution pour éviter ce bain de sang qui saigne l'Ukraine autant que la Russie. Alors pour ce qui est d'Israël, alors quel rapport entre Israël et ICO ? Eh bien, il ne vous a pas échappé que ICO, c'est l'Europe orientale et centrale, c'est-à-dire que c'est, dans l'acception pays de l'Est, ancien pays communiste, mais c'est aussi le berceau de la culture juive en Europe. La majorité des juifs qui ont été exterminés pendant la Seconde Guerre mondiale sont des juifs qui appartenaient à tous les pays d'Europe centrale et orientale, hein, Biélorussie, Pologne, etc.
Et donc, vous avez dit berceau de la culture juive.
Askenaz.
Ah.
Bien sûr. La culture juive européenne, c'est-à-dire que la culture Askenaz, alors on peut pratiquement considérer trois espaces importants pour la culture juive. La culture andalouse, qui donne la culture séfarade, la culture askenaz avec tous les juifs russes, polonais, etc. Et une culture tout à fait paradoxale, c'est la culture des juifs italiens et français, qu'on peut mettre un peu à part, parce que les Français oublient complètement, et c'est un crime culturel, que en France, il y a toujours eu des juifs, et ils ont toujours apporté... C'est le sel et le poivre de la culture de la culture française. Si vous enlevez les juifs de France, il n'y a plus de France. Dans tous les passages importants, d'abord quand ils se sont fait piquer leurs sous par les rois de France, mais d'un point de vue culturel, à Troyes, au XIe siècle, il y avait un rabbin qui s'appelait Rachid, et ce Rachid, qui était vigneron, et ce Rachid, il est considéré comme un des premiers à avoir structuré la grammaire française langue française.
Eh ben merci pour effectivement ce rappel historique quand même, parce que les gens ne le connaissent pas.
Voilà pourquoi, en prenant pied à Cracovie, ICO a acquis une connaissance du problème juif, parce qu'il n'a pas échappé aux auditeurs qui doivent savoir qu'Auschwitz est à 70 km de Cracovie et que les responsables d'ICO ont tous fait de nombreux voyages à Auschwitz en pèlerinage pour se recueillir et pour s'informer. Et personnellement, étant l'ami très intime du docteur Riznerski, qui lui-même était un ami d'un des directeurs d'Auschwitz, j'ai pu faire des visites tout à fait particulières à Auschwitz. Et là, je vais dire quelque chose qui va peut-être scandaliser les gens, mais je pense que focaliser le drame du génocide juif pendant la guerre sur l'existence de chambres à gaz à Auschwitz, qui est une réalité, enfin, que les Juifs aient été tués, qu'aient été gazés, ça c'est une réalité. Mais d'en avoir fait le point central, et à mon avis c'est une grave erreur, parce que ce qu'il fallait, c'était mettre le point central sur le fait qu'il y avait une volonté génocidaire. Les travaux de Forisson sont coupables. On l'accuse d'avoir nié l'existence de chambres à gaz. Mais ça, c'est au risque de scandaliser. C'est un détail. Ce qui est fondamental dans les travaux de Forisson, c'est qu'il a nié la volonté génocidaire des Allemands. Et ça, c'est pas possible. C'est parce que là, il y a les chambres à gaz, on peut pas en voir à l'état de marche. Parce qu'il y a des ruines, etc. Mais on peut toujours dire, oh, mais ça n'existait pas. Donc les négationnistes, ils ont beau champ. Mais aucun négationniste ne peut dire qu'il n'y a pas eu la volonté génocidaire des Allemands de tuer des Juifs. Parce qu'on a des films en pagaille sur tous le génocide par balle. Les trains qui roulent alors que... tout est là. Et je pense que l'antisémitisme qui refleurit aujourd'hui actuellement se nourrit de cette focalisation sur les chambres à gaz. Regardez, dans tous les pays arabes, on nie l'existence des chambres à gaz parce que justement, on a mis ça en avant. Alors que les musulmans, les arabes, ne peuvent pas nier qu'il y a eu volonté génocidaire. Il suffit de reprendre leur discours à eux pour savoir qu'ils avaient une volonté génocidaire aussi.
Et ça redonne donc tous les problèmes qui resurgissent actuellement.
Bien sûr.
Entre Israël et la Palestine.
Alors justement, ICO a eu d'énormes contacts avec un bon militant, un bon responsable d'ICO connaît forcément la synagogue de Budapest. Vous voyez, on ne peut pas faire de la coopération avec l'Europe centrale en étant indifférent à ça. Alors, le point sur lequel je voudrais terminer, c'est que nous avons produit un travail sur la crise de Gaza et le drame actuellement qui se joue en Israël, et l'analyse que nous faisons et sur laquelle on insiste et où on invite toutes les bonnes volontés, c'est que nous sommes persuadés que sans internationalisation des lieux saints, sans que tous les pays du monde se portent garant de l'existence d'Israël, sous réserve que les lieux saints, c'était un petit espace, soient internationalisés, non pas physiquement, mais un peu comme l'ONU à New York, il n'y a pas de solution. Et c'est le gouvernement actuel en Israël et le Hamas actuellement sont bien armés tous les deux pour que la guerre dure encore 250 ans. Donc les gens extérieurs à Israël et à Gaza doivent tout faire pour demander de mettre un pied à Jérusalem, et d'un point de vue symbolique. C'est-à-dire que toutes les religions du monde qui sont liées à Israël passent un pacte en disant « ça, on le partage ». Parce que si...
En fait, toutes les religions du monde, les trois. Quoi.
Les trois, ben oui. Les trois.
Juifs et musulmans.
Et ces trois religions... Quand vous avez des fous israéliens qui veulent reconstruire le troisième temple de Jérusalem, vous dites que la guerre ne peut que durer. Et quand vous avez des fous du Hamas qui veulent faire la Palestine jusqu'au Jourdain, c'est-à-dire expulser Israël, comme faisait remarquer un philosophe, l'enfant d'un viol... Il y a peut-être eu viol des sionistes, mais l'enfant d'un viol, il a le droit aussi de vivre.
Eh bien, écoutez, Monsieur Pierre Chevalet, merci de ces premiers éclaircissements sur, effectivement, ICO et sur les combats que vous menez et que vous allez continuer à mener, d'ailleurs. Merci donc de votre présence et nous souhaitons une excellente journée à tous nos auditeurs de Radio FM+.